C'est mon micro. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Géraldine Chopin, qui est la directrice du musée Promenade de Marie depuis 2005. Musée qui, comme vous le savez tous, abrite les collections. Donc, elle retrace l'histoire du domaine de Marie sous Louis XIV, mais également son évolution sous Louis XV et Louis XVI. Et c'est un musée qui abrite également, qui a tout un pan consacré à l'histoire de la machine de Marie, donc qui est l'objet de notre conférence ce soir, puisque Géraldine Chopin donc, va nous parler de la machine de Marie de Louis XIV à nos jours. Le musée a accueilli récemment la très belle exposition « Être femme sous Louis XIV », dont vous étiez commissaire de l'exposition. Exposition qui a eu, je crois, beaucoup de succès, qu'on a eu énormément de plaisir à découvrir avec les amis de Versailles en janvier dernier. Et donc je profite également de cette conférence pour annoncer la prochaine exposition du musée de promenade de Marie qui s'intitulera « La vie retrouvée à Marie et Versailles, 25 ans d'archéologie royale » qui aura lieu donc du 1er octobre 2016 au 5 février 2017. C'est une exposition qui a été montée en partenariat avec le centre de recherche du château et qui présentera environ 200 objets mis au jour lors des fouilles archéologiques dans le parc de Marie et qui sont donc les précieux témoins de la vie à Versailles, à Trianon et Marie du XVIIe au XIXe siècle. Donc c'est une exposition qu'on proposera aussi dans le programme d'activité automne 2016 que vous allez recevoir donc au mois de juillet. Voilà, ben je vous laisse la parole.
Je remercie la Société des Amis de Versailles de m'avoir invité. Et donc, nous allons parler ensemble ce soir de la machine de Marie. Si jamais vous ne m'entendiez plus pendant la conférence, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, la machine de Marie est étroitement liée au domaine royal de Marie. Louis XIV a choisi Versailles pour y installer sa cour officiellement en 1682. Ainsi, Versailles devient la capitale administrative du royaume. Le point également où se fixe la cour, et ce n'est plus une résidence de plaisir. Et Louis XIV a le désir de créer une résidence de plaisir qui ne peut plus être à Versailles. Saint-Germain est un domaine où on est un peu à l'étroit, qui a un aspect gothique. Le petit Trianon, lui, est trop exigu. Et il va choisir entre Versailles et Saint-Germain un lieu où il établira une résidence privée, la première résidence privée des rois de France, donc Marly, dont vous avez une vue ici, une vue générale. Marly est construit en pleine forêt, à la lisière de la forêt de Marly, où Louis XIV avait déjà fait acquérir par le domaine royal des territoires forestiers qui ont été achetés avant même peut-être que le roi ait l'idée de concevoir un château dans ce petit vallon. L'idée originelle devait être de pouvoir étendre le domaine de chasse royal. J'ai une carte ici où la magnifique flèche vous montre Versailles et dans le rectangle, vous voyez le domaine de Marly dans ses frontières originelles. Et vous voyez que sur la droite, eh bien, s'étale toute la forêt de Marly. Et on distingue un peu une route en rouge, la route qui relie Versailles à Saint-Germain et qui va longer le domaine de Marly. Donc les communications sont sont aisées. Là, voilà la route. Je vous montre également une carte là qui est plus centrée sur Marly, avec la forêt et le domaine qui est ici. Alors, le choix de Louis XIV de s'installer à Marly a surpris ses contemporains, et l'un d'entre eux a écrit les lignes que je vais vous lire, et vous devinerez qui peut en être l'auteur. À la fin, le roi, lassé du beau de la foule, se persuada qu'il voulait quelquefois du petit et de la solitude. Il trouva derrière Louveciennes un vallon étroit, profond, à bord escarpé, inaccessible par ses marécages, sans aucune vue, enfermé de collines de toutes parts, extrêmement à l'étroit, avec un méchant village sur le penchant d'une de ces collines qui s'appelait Marly. Cette clôture sans vue, ni moyen d'en avoir, fit tout son mérite. L'étroit du vallon, où on ne pouvait s'étendre, y en ajouta beaucoup. Il crut choisir un ministre, un favori, un général d'armée. Ce fut un grand travail que de dessécher ce cloaque de tous les environs, qui y jetaient toutes leurs voiries et d'y apporter des terres. L'hermitage fut fait. Est-ce que vous avez une idée de l'auteur de ces... C'est Saint-Simon, exactement, qui a été très souvent invité à Marly, mais qui n'aimait pas le lieu. Alors, en effet, pour aller dans le sens de Saint-Simon, à Marly, on a un vallon, il a fallu déplacer des terres, terrasser tout le terrain, déboiser également avant, et puis drainer les eaux marécageuses. Mais l'intérêt de ce vallon, on le voit un peu sur le tableau, c'est qu'il est entouré d'un relief. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour la machine de Marly, pour les fontaines qu'elle a servi à alimenter en eau, c'est que ce relief va permettre d'établir des cascades et faire jaillir de l'eau très très haut également, par la vertu des vases communicants, notamment. Alors, pour parler un petit peu de Marly, mais sans trop m'étendre, je vous présente quand même un peu le domaine. L'intérêt d'avoir un terrain nu, c'est que le roi va pouvoir construire une habitation à partir de rien, ex nihilo, ce qu'il n'a pas fait à Versailles, ce qu'on ne peut pas faire au Louvre ni à Saint-Germain, puisqu'on conserve un peu les constructions des ancêtres dynastiques. À Marly, on se permet tout ce que l'on veut. L'architecture est très originale. Le château est une bâtisse qui était éclatée dans la verdure. On a un pavillon royal au centre, ici. Et puis, de part et d'autre, on a des pavillons qui sont alignés et qui vont servir à recevoir les invités que le roi invite pour ses séjours à Marly, séjours que l'on appelle des Marly. Les pavillons, ils sont au nombre de 12 et vous les voyez ici. Quand on arrivait à Marly, on n'arrivait pas par l'axe principal, celui qu'on a sur le tableau. C'est assez rare. Dans les résidences royales, souvent, on rentre par la grille centrale et on tombe sur le corps de logis. Mais là, on arrivait par le côté. Donc, il y a un axe secondaire qui passe également par le château, que l'on voit ici. L'entrée était là. Elle est à l'emplacement... Enfin, le musée est au niveau de l'entrée, à la grille royale. Et quand on est à la grille, on ne voit pas le château. C'est en descendant l'allée royale, donc il faut être autorisé à pénétrer dans le parc de Marly pour pouvoir découvrir le château de Marly. Alors ici, c'est une reconstitution 3D, enfin une image virtuelle du pavillon qui a été incrustée dans la vue actuelle du parc de Marly. Et ce qui a surpris à Marly, c'était l'originalité des décors. On n'a pas un château en pierre de taille. On est dans une résidence privée, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a pas de démonstration de pouvoir comme il peut y avoir à Versailles, et l'architecture est moins coûteuse. On a de la simple maçonnerie, et ce qui nous semble être des pilastres en marbre rose du Languedoc, un fronton en lapis-lazuli orné d'un bas-relief en bronze doré, tout ça, c'est factice. C'est du toc, j'ai envie de dire, c'est de la peinture en trompe-l'œil. Ça, c'est très original également à Marly. Vous avez sur l'image de gauche une restitution du 19e siècle du pavillon royal, donc avec les effets de matière que l'on voit sur la façade, qui se répétaient également sur les pavillons des invités. Et l'image de droite nous montre le plan du château au rez-de-chaussée. Et c'est un plan qui évoque un peu les villas vénitiennes de la fin de la Renaissance, comme la Villa Rotonda de Byzance. J'ai un petit zoom sur les pavillons des invités qui étaient décorés selon le même système, peinture en façade, avec des décors architecturaux ou des emblèmes mythologiques. Pour aller à Marly, vous le savez peut-être, il fallait réclamer. Il y avait une formule qui était « Sire Marly ». Que les personnes, les courtisans qui souhaitaient se faire inviter, murmuraient pour que le roi les inscrive sur une liste des invités qui était publiée, affichée dans le château de Versailles, et ainsi sûrement très commentée de la part de tous les courtisans, pour savoir qui y allait, qui n'y allait plus. Donc vous avez à gauche une liste des invités, et à chaque fois, ils sont répartis dans les différents pavillons. Et l'intérêt d'être à Marly, c'est que déjà les places sont chères, donc y être invité est une distinction, et surtout, à Marly, l'étiquette est relâchée. Le roi est tout à son plaisir. Alors, pour l'étiquette, les hommes peuvent conserver leur couvre-chef sur la tête. On peut s'asseoir quand on veut en présence du roi. Et il y a une sorte de vie communautaire. On vit tous ensemble dans le pavillon royal, dans le grand salon. Et Marly est un lieu de fête et de divertissement. Le modèle d'éventail que vous avez sur l'image de droite représente une loterie qui a été donnée à l'occasion du mariage d'une des princesses de la cour. Donc on organise à Marly des mascarades, des bals, des concerts. Et donc c'est vraiment un lieu de divertissement. On passe aussi beaucoup de temps dehors pour chasser. Alors pardon, je vous ai montré sur l'éventail une vue du salon de Marly que vous retrouvez sur cette image. Donc au centre, vous avez un... L'architecture du pavillon est assez complexe. Au centre, il y a un grand salon à l'italienne, comme un Vaux-le-Vicomte, qui s'étale sur deux niveaux. Donc c'est le salon, il est ici. Et puis vous avez au rez-de-chaussée un appartement, et puis à l'étage, un autre appartement. Donc voilà, le salon est vraiment la pièce maîtresse du pavillon royal. Vous avez une vue 3D ici de l'intérieur du salon. Que le musée a fait faire, on a proposé une restitution en 3D du château de Marly, qui n'existe plus. Et la grande occupation à Marly, c'est la chasse. Vous avez un départ de chasse ici avec les hommes à cheval et les femmes qui suivent en carrosse. Et de nombreux divertissements peuplent le jardin. Il y a une roulette, c'est-à-dire une sorte de Space Mountain du XVIIe siècle, c'est-à-dire un chariot à roulettes qui glissait sur des rails en bois pour amuser les courtisans. Vous avez à l'écran une escarpolette, une balançoire géante où les invités pouvaient prendre place, tandis que des domestiques donnaient de l'élan en tirant sur des cordes. Et ce que l'on aimait à Marly, c'était se promener dans les jardins et contempler les eaux jaillissantes. Ici, vous avez un tableau de Pierre-Antoine de Machy qui représente le bosquet des Muses, dont la lance s'élevait à une vingtaine de mètres. Donc là, on est à la fin du règne de Louis XV ou au début du règne de Louis XVI. Mais ce bassin n'avait pas été modifié. Alors, à Marly, voilà, vous avez la grande image, montre une vue aérienne qui est prise du côté dans le ciel, au-dessus de Croissy-sur-Seine, et qui représente le relief qui environne le château de Marly. Alors, vous avez une petite image en zoom, si je puis dire, c'est à gauche. Le château que l'on voit sur l'image là, on voit le pavillon royal ici et l'axe des jardins, on le retrouve tout là-haut. La perspective est un petit peu tordue. Mais l'intérêt de cette image, c'est qu'on se rende compte d'une chose, c'est qu'à proximité de Marly, on a une source d'eau inépuisable pour les fontaines, c'est la Seine que l'on voit en bas de l'estampe. Le problème, c'est que la Seine est à peu près à 2 km du château, et surtout, elle est située 155 mètres plus bas, d'un point de vue dénivelé. Bon, donc on va essayer de résoudre ce problème. L'intérêt, c'est d'avoir une source inépuisable. La difficulté va être de pouvoir la remonter jusqu'au château de Marly, et c'est la machine de Marly qui va permettre cette prouesse technique. Mais avant même qu'on construise la machine de Marly, on avait bien sûr pensé à amener de l'eau au bassin par le système traditionnel, le système gravitationnaire, qui, comme à Versailles, permet, en déviant des étangs, des petits cours d'eau, des rues la plupart du temps, en creusant des rigoles, d'exploiter l'eau qui est sur place. Alors, vous avez sur la gauche une estampe qui nous montre un plan du château de Marly. Je vous remets un peu les repères. Ici, le pavillon royal. On distingue à peine les pavillons des invités sur les côtés, là. Et puis, le grand axe principal. L'intérêt de cette estampe, c'est aussi qu'on voit un système d'ombre qui montre, comme un coussin un peu sombre, que Marly est au creux d'un vallon. Le relief, il est là. Ici, là, vous voyez, tout autour, en noir. Donc, on va suivre ce relief pour construire un réseau d'aqueducs souterrains, de fossés, qui vont servir à alimenter en eau les premiers bassins de Marly que vous voyez, donc les pièces d'eau rectangulaires et puis le grand bassin central entre les pavillons des invités. Donc on a tout d'abord recours à l'hydraulique gravitationnaire, celle qui a été mise en place à Versailles. Et cette hydraulique permet simplement en fait d'alimenter des bassins en eau. Mais ça ne permet pas encore de produire des jets d'eau, d'amener de l'eau aussi vers les parties hautes du jardin. Alors, je vous montre quelques bassins. Au premier plan, les nappes. Et puis à l'arrière-plan, la grande pièce d'eau qui subsiste encore, qui donc ont été alimentées en eau grâce au drainage de toute l'eau qui était disponible, les petits rues, les rigoles et toutes les sources qu'il pouvait y avoir dans les environs du domaine royal. Pour avoir des jeux d'eau un peu plus complexes, pour pouvoir aménager des cascades, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous montre une cascade qui s'appelait la cascade Champêtre, qui était installée du côté de Louveciennes, dans les bosquets qui étaient de ce côté-là. Et puis, une des merveilles de Marly, c'était la grande cascade qu'on appelait aussi la rivière, parce que de loin, on aurait pu croire que c'est un cours d'eau qui dévalait entre les arbres du domaine. La cascade ici, on voit un profil d'abord en haut, donc le dénivelé, ça descend, c'est assez raide comme côte, et l'image suivante nous montre la rivière qui, elle, a été aménagée derrière le pavillon royal de Marly, donc dans le fond du domaine. Donc c'est grâce à la machine de Marly, donc je vous remets une photo ici, qu'on peut avoir des eaux jaillissantes et des fontaines qui vont pouvoir marcher en permanence. Je reprends le cours de mes notes que j'ai perdu. Alors, ce n'est pas la première fois à Marly qu'on met en route qu'on utilise de l'hydraulique mécanique, on l'a fait aussi à Versailles, notamment quand on a voulu alimenter la grotte de Tétis. Sur cette diapositive, vous avez plusieurs images. Le détail d'un tableau, tout d'abord, qui nous montre la petite grotte de Tétis, qui est à peu près à l'emplacement aujourd'hui de l'aile du Midi. De l'aile du Nord, excusez-moi, qui est ici. Et vous avez à côté de cette grotte trois réservoirs qui sont à peu près à l'emplacement de la rue des réservoirs actuels. Et pour alimenter en eau ces réservoirs, on a pompé l'étang de Clagny qui bordait la rue des réservoirs actuels. Et cet étang, il était pompé grâce à la pompe inventée par Denis Joly. Alors on l'aperçoit un peu sur le dessin, la pompe, cette structure-ci, et vous en avez également une maquette. Alors, sur les deux petits pavillons latéraux, il y avait des manèges de chevaux, donc des chevaux qui tournaient toute la journée et qui actionnaient un système de pompage qui permettait de pomper l'eau de l'étang. Et puis cette eau, on la faisait remonter dans la partie centrale, dans un château d'eau. Et par la force gravitationnaire, l'eau pouvait recouler vers les fontes, vers les réservoirs qui servaient à alimenter la fontaine de Tétis. Donc important, à Marly on innove, mais on s'inspire également de ce qui a déjà été fait. Pour alimenter Marly en eau, Colbert, dont vous avez un portrait à gauche, a lancé, je dirais, une sorte d'appel d'offres à échelle européenne pour trouver des inventeurs, pas forcément français, capables de proposer à Louis XIV un système pour faire monter l'eau de la Seine jusqu'à ses jardins. Deux personnes vont remporter le marché, pour parler un peu dans le registre du XXIe siècle. Ce sont deux Liégeois qui s'appellent Arnold de Ville, vous avez un portrait par Lebrun au centre, et Rennequin Suhallem. Ces deux-là font la paire, c'est un binôme à qui on doit la machine de Marly. Leurs rôles sont encore un petit peu débattus par les spécialistes, qui est vraiment l'inventeur. Alors, je dirais, mais je ne veux pas trop m'avancer, que Renkin Sualem, qui avait reçu, qui est issu de la bourgeoisie, qui a reçu, qui est un lettré, a été le promoteur du projet de la machine, un peu le commercial, celui qui était capable de parler à Colbert pour lui proposer, le convaincre d'adopter son projet. Renkin Sualem, à droite, lui, est un charpentier. C'est un charpentier dont on dit qu'il savait à peine signer de son nom. Et qu'il avait aussi mauvais caractère. Et c'est peut-être à lui que revient l'idée, le savoir-faire de la construction, vraiment, de l'aspect technique de la machine de Marly. Tous deux avaient déjà une expérience. Ils avaient un CV qui était assez convaincant, puisque dans le pays de Liège, ils avaient déjà réalisé une machine servant à pomper l'eau d'un cours d'eau pour l'amener dans les jardins d'un prince. Ce lieu, c'était Modave, en Belgique. Alors... J'ai essayé de retoucher une carte de la Belgique, c'est assez raté. Le point noir, c'est pour vous situer Liège, et le point rouge, c'est Modave, qui était à l'époque une petite principauté. Vous voyez la façade du château, avec ses deux pavillons latéraux pointus. On imagine les jardins qui se développent devant ce bâtiment. Et sur la photo de droite, vous voyez le revers du château. Il est à flanc de falaise. Et au pied de cette falaise, 50 mètres plus bas, coule un petit cours d'eau, le Wayou. Et Renkin Sualem a construit pour Gaspard de Marchin, le comte de Modave, une machine dont voici une maquette, elle n'existe plus cette machine, une machine avec une roue hydraulique donc, qui va tourner grâce à la force du courant du cours d'eau. Et cette roue va faire fonctionner des pompes qui vont aspirer l'eau et l'emmener dans des canalisations. Et ces canalisations vont remonter la falaise et alimenter les jardins en eau. Le principe de la machine de Modave va être appliqué à la machine de Marly, mais sauf que tout est beaucoup plus complexe et un peu plus gigantesque également. Là, je vous montre des images qui représentent des machines qui servent à pomper l'eau des mines. Elles sont tirées d'ouvrages qu'on appelle des théâtres de machines, c'est-à-dire qui présentent les machines les plus complexes que l'on sait faire à l'époque. Ce sont des livres du début du XVIe siècle. Alors pourquoi je vous les montre? Parce que Liège a une caractéristique, c'est que depuis le XIVe siècle, on exploite le minerai. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec les jardins? Le rapport, c'est qu'on a développé un savoir-faire dans l'exore minière, c'est-à-dire extraire des galeries de minerai l'eau, qui est en fait un obstacle à l'extraction du minerai. Alors pour ça, on a construit des systèmes de pompes qui descendent de manière très très profonde et remontent l'eau par différentes étapes. Et ce savoir-faire de la mine, il a été transféré pour le plaisir de nos princes, pour l'hydraulique des jardins. Alors, la machine de Marly, ses travaux s'étalent entre les années 1680 et 1686. La première fois, c'est en 1684 que l'eau de la machine commence à arriver dans les fontaines de Marly. Alors, la machine, vous en voyez une coupe, là, sur cette estampe, et vous voyez également un paysage en dessous, où on voit le grand bâtiment de très grande taille qui en impose sur la Seine. Les dimensions de la construction sur la Seine, c'est à peu près un rectangle de 55 mètres sur 60. Donc c'est imposant. Dans le fond, on aperçoit le château de Saint-Germain-en-Laye, puisque la boucle fait une scène sous Saint-Germain. Et toujours au niveau de la machine, on aperçoit à gauche le coteau de Loucienne. Donc c'est cette pente de 150 mètres de haut que l'eau va devoir remonter pour accéder au sommet du réseau hydraulique, qui est un aqueduc, l'aqueduc de Loucienne, qui existe encore aujourd'hui. Alors cet aqueduc, vous en voyez la silhouette à l'horizon, là, ici. Et il y a tout un ensemble de mécanismes qui se développent sur le terrain pour pouvoir faire remonter l'eau. Alors, par étapes, on va regarder ce qui se passe. D'abord, tout commence au niveau, de la Seine. La Seine, c'est à la fois ce qu'on cherche à pomper, mais c'est aussi l'énergie qui va permettre à la machine de fonctionner. C'est pas le vent, c'est pas des chevaux. Là, ça marche tout seul, j'ai envie de dire. Ça marche tout seul, et normalement toute l'année, sauf quand il gèle, sauf quand les eaux sont trop basses, sauf quand il y a une crue. Bon, ça fait quand même finalement pas mal de moments où c'est pas très facile. Ici, donc, on a une estampe un petit peu, on va dire, cocasse qui représente la machine, un peu bedonnante. Cette construction, elle est intégralement en bois. C'est une sorte de barrage qui est doté, qui est hérissé, eh bien, de structures qui cachent plus ou moins les roues hydrauliques qui sont les organes moteurs de la machine. Alors, ce sont des roues gigantesques. Elles sont en bois et elles font 12 mètres de diamètre. Elles sont entourées de pales, d'aubes. Alors, on met plus d'aubes en été qu'en hiver, parce qu'en été, le débit est un peu plus lent et on profite de chaque goutte de Seine, si je puis dire, pour bien entraîner les roues. Les roues, ici, on a un petit... on a un peu un zoom sur les roues. Vous voyez voilà, les poutres qui les constituent, les différentes aubes. Et les roues, ce sont elles qui vont entraîner toutes les pompes, les 259 pompes, qui permettent à l'eau de remonter vers l'aqueduc de Louveciennes. Alors, ces roues, elles sont toutes... donc, elles tournent sur leur axe, forcément, et l'axe de chacune de ces roues se prolonge par une manivelle. Et la manivelle, c'est l'organe essentiel de tout notre système. Cette manivelle, vous la voyez là en gris, ça fait penser un peu à une pédale de vélo, si je puis dire. Et les manivelles de ces roues, c'est elles qui vont être raccordées aux pompes et qui vont permettre de les actionner. Alors, ici, on a un dessin un peu technique qui nous montre les roues de la machine, et puis également, on ne voit pas forcément très très bien, mais les pompes qui trempent dans l'eau de la Seine. Alors, on a une roue ici, et non, excusez-moi, je vais prendre l'autre. On a une roue ici, là, et puis là, on aperçoit les pompes qui sont reliées à la Seine par des petites canalisations. Alors, une pompe, je vais faire un peu de mime, hein, ça fonctionne, je dirais, un peu comme une seringue, celle qu'on connaît, ou comme une pompe à vélo. Ça marche en deux temps. Il y a un temps où la pompe aspire l'eau, et puis le temps où elle recrache l'eau, où elle la refoule, c'est le terme technique. Une roue, elle ne se déplace pas de manière horizontale, elle tourne. Mais c'est grâce à la manivelle... Et en raccordant la manivelle à une tige métallique, qu'on va pouvoir transformer le mouvement de la roue. Il va devenir de circulaire, il va devenir rectiligne, et de continu, il va devenir alternatif pour faire fonctionner les pompes, les faire aspirer et refouler l'eau. Là, on a la première transformation de mouvement, comme on avait à Modave, qui est appliquée à Marly. Voilà, vous avez une vue sur un corps de pompe, c'est pas ce qu'il y a de plus parlant. Si vous venez au musée, on a des maquettes qui sont animées. Donc c'est assez pédagogique, on comprend bien le système. Alors, là, on a encore une vue qui nous montre le dénivelé, j'insiste un petit peu dessus, parce que une fois que les pompes de rivière vont avoir aspiré l'eau, cette eau va être refoulée dans des canalisations, des gros tuyaux qui remontent, un peu comme des autoroutes, qui remontent l'eau en grande quantité jusqu'à Louveciennes. Mais avec le dénivelé de 150 mètres, à l'époque de Louis XIV, les pompes ne sont pas assez solides et les canalisations ne sont pas assez costauds non plus pour supporter une pression de 105, enfin une pression, la pression d'une colonne d'eau de 150 mètres de hauteur. Donc on ne va pas pouvoir remonter l'eau d'une traite, c'était trop facile. On ne va pas pouvoir remonter l'eau directement par le tuyau jusqu'à l'aqueduc de Louveciennes. Alors, on va saucissonner la montée de l'eau en trois étapes. Alors, les étapes, on les aperçoit un petit peu sur cette estampe. On va insérer entre la rivière et l'aqueduc deux relais. Des relais qu'on appelle les puisards. On a un puisard à mi-côte et puis un puisard supérieur. Je vous les montre sur l'estampe. Premier puisard, premier relais, ici. Donc l'émission des pompes qui sont là, ça va être de pomper l'eau de la rivière, les emmener dans des canalisations qui vont remonter jusque-là, 50 mètres plus haut, et on n'aperçoit pas ici, mais il y a un réservoir où l'eau des canalisations tombe. Voilà. Et ici, vous apercevez des bâtiments qui sont positionnés au-dessus des puisards. Et dans ces bâtiments, on a des pompes. Et ces pompes, vous l'imaginez, vont repomper l'eau jusqu'au puisard suivant, 150 mètres plus haut. Et on l'aperçoit ici, le puisard suivant, le puisard supérieur. Et là, de nouveau, on va avoir des pompes qui vont repomper l'eau pour l'emmener, cette fois, vers l'aqueduc. Et une fois qu'on sera à l'aqueduc, le plus gros du travail sera fait, puisque l'eau, désormais, s'écoulera vers les réservoirs du château, simplement grâce à la gravité. Je vous montre le plan d'un puisard. Sous terre, on aperçoit le réservoir. Vous distinguez les pompes, ces espèces de tubes, des pompes tubulaires qui tombent, enfin qui sont suspendues au-dessus. Alors, c'est des grosses pompes hein, qui font 20 cm de diamètre, 1,60 m de haut au total. Donc, on a dû ouvrir des forges, bien sûr. C'est des pompes qui ont été faites en Belgique, dans le pays de Liège, et qui ont été importées ensuite à la machine de Marly. Alors, la difficulté, vous allez me dire, mais comment fait-on fonctionner des pompes, vu que les roues sont assez éloignées? Le premier puisard, il est à 200 mètres de la machine, et le second est à 600 mètres. Eh bien, vous apercevez sur cette estampe un système de tringlerie que l'on voit ici. On a l'impression qu'il y a des fils qui relient les roues à chaque puisard, en fait, qui vont jusqu'à chacune des pompes. Et ces roues, et c'est ce système de tringlerie, je vous le montre, on aperçoit sur la gauche deux lignes parallèles. Eh bien, ce sont des grosses barres métalliques qui vont tirer des pièces qu'on appelle des varlets, qui ont des formes de T, qu'on voit ici. Là, on a un varlet en forme de T qui est accroché à un système de pompe. Et ce varlet, quand la tringle du dessus le pousse, celle du dessous le tire. Et c'est vice-versa. Du coup, la pièce, elle va pivoter sur elle-même et ça va faire monter et descendre les pistons des pompes. Et tout ce système de tringlerie... Vous me suivez pour le moment? Ça va, parce que c'est pas facile. Ce système de tringlerie, eh bien, c'est lui qu'on aperçoit. Tous ces fils, enfin ces fils, ce sont des grosses poutres qui font, enfin ce sont des barres métalliques qui ont une section de 10 cm. Toutes ces barres métalliques, qu'on appelle les tringles, eh bien, reposent sur des grands chevalets comme des portiques tout le long de la remontée du coteau de Louveciennes. Je profite au passage pour vous dire que la machine de Marly traite également un peu d'autres sources. En effet, on ne veut pas perdre une goutte d'eau. Et comme sur le coteau de Louveciennes, quand il pleut, eh bien, ça ruisselle, on en profite pour faire des petites rigoles qui vont amener l'eau de source vers les puisards. Donc dans les puisards, on pompe de l'eau de Seine, mais également de l'eau douce. Enfin, de l'eau de source, pardon. Vous avez sur cette estampe, en bas à droite, une rare représentation qu'on ait des puisards. Et vous voyez qu'il y a un ouvrier qui est en train de travailler ici. Et là, vous imaginez la taille des tringles qui rentrent dans le bâtiment pour aller actionner les pompes. C'est vraiment gigantesque. Chaque tringle fait 6 mètres de long. Enfin, ça, c'est d'après les archives, parce que sur l'estampe, on ne se rend pas trop compte de l'échelle. Et les chevaliers qui portent le système de tringlerie, eux, eh bien, mesurent à peu près 5 mètres de haut. Et tout le bois qui est utilisé, ce sont des fourrées entières, des grosses poutres, des madriers. Et tout le système de tringlerie, il est relié également aux roues de la machine de Marly. Je vous ai parlé des manivelles tout à l'heure, des roues. Eh bien, pour la plupart des roues, il y a une manivelle qui sert directement à actionner les pompes de la rivière. Et l'autre manivelle, elle entraîne le système de tringlerie qui sert eh bien, à pomper l'eau des puisards qui sont installés le long de la remontée. Il y a beaucoup de tuyauteries. Pour rejoindre le puisard du haut qu'on voit ici jusqu'à l'aqueduc, il y a une propriété de la princesse de Conti que l'on n'a pas défigurée. Là, les tuyaux passent exceptionnellement en souterrain. On aperçoit en rose les masses qui représentent les bâtiments de sa propriété. On voit également son petit jardin. Et vous voyez là, son jardin, pardon. Et là, on a une sorte de coupe qui montre un passage en maçonnerie où vous voyez les ronds blancs que l'on voit, ce sont les sections des tuyaux. Voilà, ça passe en dessous pour ne pas dégrader sa propriété. Et on voit un petit ouvrier qui est en train de voir s'il n'y a pas une fuite d'eau. Alors, je vous montre un peu un échantillonnage des conduites qu'on pouvait retrouver sur le réseau hydraulique. À gauche, vous avez un gros tuyau de transport, des tuyaux qui étaient en fonte, qui étaient reliés les uns les autres par un système de boulonnage. Ça ne devait pas être très étanche. Donc, on sait qu'il y a des petites lamelles de bois, parfois du cuir de vache, qui servaient à faire des joints, avant qu'on connaisse le caoutchouc ou des matières plus synthétiques. Et puis à droite, vous avez un petit tuyau Alors là, qui a été retrouvé presque par hasard dans les fouilles archéologiques de Marly, lui, il a une petite section. C'est une simple feuille de plomb qui a été recourbée et soudée. Et ce petit diamètre indique qu'il devait certainement alimenter une petite fontaine, un jet d'eau. Voilà, donc il y a des différences de diamètre. On comprend la différence de fonction également. L'aqueduc de Louvciennes, qui est le sommet, le but à atteindre par l'eau, le voici. Il a été construit juste après la machine de Marly. Il y a eu une tour en bois temporaire le temps que toutes les infrastructures soient installées. Et il transporte sur 650 mètres de long l'eau qui provient de la machine jusqu'à une extrémité que l'on aperçoit en haut à gauche, qu'on appelle la tour du jongleur. Alors, point de jonglage dans cette tour, c'était le nom de l'architecte. Une fois que l'eau est arrivée à l'aqueduc, comme on est tout près de la grille royale, ça peut paraître étrange, eh bien, on arrête l'aqueduc, alors que les réservoirs, on y est presque, et l'eau repasse en souterrain. Alors ça, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on fait un aqueduc, on monte dessus, puis on redescend, sachant qu'il y a un système de siphon pour que l'eau arrive dans les réservoirs que je vais vous montrer après. Il est possible que Louis XIV ait voulu une architecture qui soit un peu digne des Romains, qui étaient forts en aqueduc, et qu'il ait voulu avoir un ouvrage d'art digne de sa renommée pour terminer l'acheminement de l'eau. Alors une fois que l'eau sortait de l'aqueduc, elle arrivait à un petit bâtiment qui existe encore, qu'on peut voir depuis la route nationale. C'est le regard du jongleur. Donc, qui porte le nom de son architecte. Et le regard, vous voyez un petit bâtiment là sur une pièce d'archive, il servait à récupérer l'eau de la machine et à l'orienter soit vers Marly, soit vers Versailles. Et quand elle allait vers Marly, l'eau était d'abord stockée dans des réservoirs. Alors les réservoirs, on les aperçoit sur ce plan qui a été fait par Bruno Benz, qui a travaillé beaucoup sur l'hydraulique de Marly. Tout d'abord, on a construit un petit réservoir, le petit rectangle bleu que vous voyez là, qu'on a complété par un petit réservoir, puis un très très grand. C'est ce qu'on appelle le réservoir de Marly. Par la suite, de l'autre côté de la route, on a besoin encore de stocker de l'eau. On a construit le réservoir de Louvciennes, qui est là. Et ensuite, on a aménagé le réservoir du Trou d'Enfer. C'est le nom du dieu dit de la plaine qui est derrière Marly. Le grand réservoir que vous voyez là. Et c'est à partir de ces réservoirs que l'eau pouvait aller vers les jardins de Marly. Voici une pièce qui montre le plan du réservoir de Louvciennes, qui existe encore de nos jours. C'est le cas également des réservoirs de Marly. Alors, si on fait un petit bilan technique, à la machine de Marly, qu'est-ce qu'on a d'exceptionnel techniquement ? Pour les pompes, on connaît les pompes depuis l'Antiquité. L'illustration de gauche vous montre une pompe de mine. Donc vous voyez dans le creux, dans les entrailles de la terre, des pompes, ici, là. Et puis on aperçoit une roue. Une roue alors qui marche actionnée grâce à une rivière. Donc c'est un peu imaginaire, mais il faut imaginer qu'il y a de l'eau qui passe en dessous. Et vous voyez que de cette pompe sort un axe avec une manivelle et une bielle qui va transformer le mouvement de la roue pour faire marcher les pompes. Donc la manivelle, elle est ici. Et ça, on sait le faire depuis le XVe siècle. La transmission du mouvement des roues à longue distance, c'est quelque chose qui est au point depuis le début du XVIIe siècle. Vous voyez ici un système de tringlerie, alors là qui sert, on va dire, au domaine de la proto-industrie. On est sur une soufrière où on a de nouveau une roue hydraulique dont le mouvement est transmis à distance par le système de tringlerie porté par des chevalets et qui sert à pomper du soufre ou de l'eau dans une mine de soufre. Je ne sais pas trop ce qui se passe en dessous. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'à Marly, finalement, technologiquement, on n'a rien inventé, mais on applique à une échelle pharaonique ce qu'on savait déjà faire. Alors, ce qu'il y a de pharaonique, c'est qu'à Marly, la machine a 14 roues de taille gigantesque, comme je vous l'ai dit. Et par ailleurs, la machine de Marly, c'est un projet global. C'est un projet qui va modifier tout l'environnement de la Seine autour de la machine. Vous avez un plan, un peu tordu, qui nous montre l'état de la Seine aux abords de la machine. La machine, je vous la montre. Elle est là. Et la Seine coule dans ce sens-là. Et vous voyez qu'au centre, on a une île. En fait, on a plusieurs îles. L'île de la Chaussée, l'île de la Loge, l'île Gautier, qui, avant la construction de la machine, était plutôt un petit chapelet d'îles qui avait tendance un peu à se déplacer les unes par rapport aux autres en fonction du courant, un peu l'effet banc de sable. Hors de question d'avoir un fleuve capricieux aux abords de la machine de Marly. Donc on va relier les îles les unes aux autres. La plupart du temps avec des digues. On en voit une ici, la digue de Chatou. Alors ici, on a de la pierraille. Hein, et puis, on a également des renforts en grosse charpente. L'intérêt, c'est d'avoir deux bras de fleuve bien distincts. Un bras de fleuve sera uniquement destiné à la machine de Marly. L'autre bras servira à la navigation et on ne mélange pas les genres. Et puis, ça permet également d'avoir un cours d'eau qui ne soit pas capricieux et d'avoir un débit le plus régulier possible. De plus, aux abords de la machine, que vous voyez ici, sur le bras inférieur, on a renforcé au maximum toutes les rives pour éviter que des éboulements de terre, des affaissements de terrain, viennent également perturber le cours d'eau. Tous ces aménagements, ces estacades, ces digues, ces renforts, ont été dirigés par Vauban, notre fameux Vauban national, qui sait tout faire, décidément. On est même allé vraiment dans la finesse, puisque sur cette estampe, regardons la partie supérieure, on voit une coupe de la machine. Alors en bleu, vous voyez le fleuve qui traverse le bâtiment, qui est solidement ancré dans le lit de la rivière. Et vous voyez que sur la partie droite, on a l'impression que c'est un peu plus profond que sur... Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Sur la partie droite, le fond de la rivière est en train de remonter avant que l'eau ne pénètre dans la machine. Et si on a relevé le fond de la Seine juste avant les roues, c'est pour augmenter le débit et bien entraîner les roues. Donc vous voyez qu'on est vraiment allé aménager tous les espaces possibles pour faciliter le fonctionnement de la machine qui, d'abord, ne sert à alimenter que des fontaines. Je dirais même qu'il y a eu un désaménagement réglementaire. Pour le bénéfice du fonctionnement de la machine. Ici, vous avez une ordonnance royale. Alors, je vous lis l'entête. « Cette ordonnance porte défense à tous les pêcheurs et autres de mettre des nasses, de ficher des piquets, de planter des osiers, des saules ou autres bois dans le bras de la rivière de Seine qui coule à la machine construite sur le fameux bras sous peine de poursuite. Bon. » On n'a pas le droit de pêcher, de faire du bateau dans le bras de la machine, sinon on peut avoir des ennuis avec les autorités. Donc tout est fait vraiment pour protéger cette machine royale. Excusez-moi, je parle sans mes notes et parfois il faut que je revienne un petit peu. Alors... cette machine, donc là vous avez encore une vue d'ensemble que je vous ai remis à plusieurs reprises. Ah oui, l'intérêt c'est qu'on voit tout en bas de l'œuvre le bras de la rivière qui sert à la navigation fluviale. Donc on voit des bateaux qui passent. Il faut savoir une chose, c'est que c'était le bras le plus mal commode pour la navigation. Parce qu'au moment où la rivière se séparait en deux bras, il y avait comme une sorte de cataracte. Et c'était très dangereux pour les bateaux, il y avait comme des rapides. Alors quand on allait à contre-courant, il fallait que de nombreux chevaux viennent aller les embarcations. Et les archives font mention de bateaux qui se renversent, de naufrages qui sont dus à cette fameuse bifurcation. Alors, qui a construit la machine de Marly? Je vous ai parlé de Rennequin Suellem et d'Arnold de Ville. Ils sont venus s'installer en France avec, eh bien, comme c'est le cas souvent à l'époque, avec leurs familiers. C'est-à-dire qu'il y a une communauté liégeoise qui est venue s'installer à Bougival et qui a même pris racine. On arrive à suivre dans les archives de la machine eh bien, tous les noms des personnes qui ont travaillé à la machine. Et les gros travaux ont été assurés par environ 1800 personnes, des soldats du roi qu'on occupe quand on est en période de paix. Et par la suite, la machine s'est organisée comme un service dépendant des bâtiments du roi. Donc c'était le surintendant des bâtiments du roi qui était en quelque sorte le surintendant de la machine de Marly. Mais c'était un service autonome avec son propre directeur, un contrôleur et une soixantaine d'ouvriers qui vivaient sur place et qui avaient pour mission, vous l'imaginez, de veiller à l'entretien de la machine. On sait qu'ils travaillaient, il y avait un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. et qui était nécessaire, puisque on sait qu'il y a souvent des ruptures de canalisation, une roue qui est cassée, des trains qui se dévissent, et donc il fallait veiller constamment sur le bon fonctionnement de la machine. Les corps de métier répertoriés sont de deux natures. On a essentiellement des charpentiers, puisque l'essentiel de la machine est en bois, et beaucoup aussi de forgerons, puisque toutes les pièces mécaniques, métalliques, sont en métal. Et donc c'est eux qui, par rôle successif, se relayaient pour l'entretien de la machine. Alors là, j'ai essayé de trouver dans l'iconographie des travailleurs. Donc là, on a un élégant réparateur de tuyaux. Et puis sur l'estampe là, que je vous ai montré à plusieurs reprises, je vous montre quelques zooms. L'image en haut, ici, nous montre le pavillon du directeur de la machine de Marly. Le premier directeur, c'était Arnold de Deville, celui dont on pense qu'il a réussi à faire accepter le projet à Louis XIV. Sous Louis XV, le roi offre ce pavillon à Madame du Barry, et ça va devenir sa propriété à Louveciennes. Et c'est au bout du jardin, par ici, qu'elle va faire construire le pavillon de musique par Claude-Nicolas Ledoux. Au milieu de la côte, on a un bâtiment ici qui est une forge. Et puis un peu plus bas, au niveau de la rivière, on a ici le magasin, enfin le logement du contrôleur de la machine, le numéro 2 en quelque sorte. On a le magasin des tuyaux de fer. Et là, c'est pas indiqué sur l'estampe, mais on peut s'imaginer qu'on est en train de refabriquer ou de réparer une roue. On a sûrement les locaux qui sont liés aux ouvrages de charpente. Alors cette machine, elle a fait la fierté de Louis XIV, qui a même fait frapper un jeton en son honneur, alors un jeton un peu schématisé. Et en tout cas, cette machine a été qualifiée de 8e merveille du monde, par les Français, bien sûr. On l'a qualifiée également de Léviathan de rivière, parce qu'à cette époque-là, personne ne comprenait comment elle fonctionnait. Les hommes, les contemporains de Louis XIV n'avaient pas affaire à des machines comme nous, on a affaire quotidiennement. Et le roi n'était pas peu fier d'y amener des visiteurs. Les ambassadeurs du Siam sont venus voir la machine de Marly. Au XVIIIe siècle, le prince du Nord, le futur Pierre le Grand, quand il se rend à Versailles, va voir la machine de Marly. Christian VII de Danemark. Et puis Jefferson aussi à la fin du XVIIIe siècle. C'est un peu comme les touristes étrangers qui vont voir la Tour Eiffel quand ils viennent à Paris. C'était un peu un incontournable de la découverte du domaine royal. Au XVIIIe siècle, la machine qui, au début, peut élever 6 000 mètres cubes d'eau par jour, j'ai un chiffre, en 1739, au début du règne de Louis XV, disons, elle n'en élève plus que la moitié, 3 000. Et on commence un peu à trouver que c'est une danseuse qui coûte cher, puisqu'elle est très coûteuse d'entretien, son budget de fonctionnement est très élevé, et on aimerait bien, du coup, la simplifier. Ce que l'on aimerait faire, surtout, c'est remonter l'eau d'une seule traite. Et pendant tout le XVIIIe siècle, on va tergiverser en se demandant comment il faut faire. Des concours vont être lancés. L'Académie des sciences pilote ces concours. Des propositions farfelues sont parfois faites. Donc là, on est sous... c'est le marquis de Marigny que vous avez en portrait ici, donc qui est surintendant des bâtiments du roi sous le règne de Louis XV. Donc à cette époque où on se dit que la machine coûte cher et qu'il faudrait la moderniser, tout en la simplifiant et en faisant des économies en même temps. Donc il y a des projets un peu farfelus qui sont présentés. Celui-ci, conservé aux archives nationales, on ne sait pas trop ce que l'auteur a voulu proposer. Avec ces petites tours qui montent jusqu'à Louveciennes, on ne voit pas les tuyaux. Et puis, certains projets ont l'air beaucoup plus sérieux, mais on ne sait pas s'ils sont tout à fait faisables. Exemple, celui-ci. Alors, il est un peu compliqué. C'est le plus simple que j'ai trouvé. On voit ici, en haut, on aperçoit ici la rivière. Là, vous voyez la côte de Louveciennes, et là, on arrive à l'aqueduc. Donc, on reconnaît bien le terrain. La proposition, ici, c'est de faire venir l'eau par une galerie horizontale, depuis la Seine, directement, la faire passer ici, dans le sol, jusqu'à la plombe de l'aqueduc. Et puis après, on aurait une galerie absolument verticale par laquelle on remonterait l'eau. Alors, creuser une galerie horizontale, on va dire qu'on sait faire, mais on ne sait pas trop à l'époque quel type de terrain on peut rencontrer. En tout cas, pour l'amener de l'eau, c'est assez facile. percer une galerie verticale, ça peut être faisable, mais c'est comment remonter l'eau? Eh bien, la proposition du savant que nous avons sous les yeux, c'est la suivante. C'est qu'au fond de la galerie, ici, on aurait un grand fourneau. Et dans ce fourneau, eh bien, on ferait chauffer l'eau liquide qui arrive. Cette eau s'évaporerait, bien sûr. On voit des petites bulles. Enfin, j'imagine que c'est des bulles. Et cette eau pourrait arriver jusqu'au sommet de l'aqueduc. Et là, au sommet de l'aqueduc, on a ça. On aurait un alambic qui condenserait l'eau et l'amènerait vers l'aqueduc. Alors c'est un projet qui est quand même pris très très au sérieux, sauf qu'on n'est pas sûr que l'eau vapeur puisse arriver si haut, puis on ne sait pas trop comment faire. Bref, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, aucune décision vraiment n'est prise. On se plaint de la machine, mais on ne fait pas grand-chose. C'est sous Napoléon que les choses vont changer. L'empereur va décider de supprimer la vieille machine de Louis XIV, qui est fidèle au poste, mais un peu brinque-ballante, depuis 120 ans, et la remplacer par une machine qui incarne la modernité, une machine à vapeur. Alors, le temps de construire la machine à vapeur, il faut bien quand même faire monter un petit peu d'eau. Donc, on va garder que deux roues. Et on va même réussir à les moderniser et refaire monter l'eau quand même d'une seule traite. Alors à la fois, on se dit, bah, pourquoi pas garder ce système? Mais on est obsédé par l'idée d'une nouvelle énergie de la machine à vapeur. Donc on va avoir une machine provisoire, dont vous apercevez deux roues, simplement. On garde que deux roues de la machine de Marly, les deux roues qui sont ici. Et à côté, sur la rive, on va construire, alors encore la machine de Louis XIV en ruine. Elle a même été vendue aux enchères pour en vendre le bois. Donc il y a un entrepreneur qui est venu prendre le bois dont il avait besoin. Et puis pendant 50 ans, les ruines de la machine de Marly vont être comme ça sur la Seine. C'est une très belle aquarelle au passage. On aperçoit les deux roues de la machine provisoire. Et sur la rive, on construit un bâtiment qui existe encore. Un bâtiment qui va abriter la fameuse nouvelle machine à vapeur. Il est de style néoclassique. Il a été inauguré par Charles X. En 1817, en même temps que la machine. Et à l'intérieur, aujourd'hui, on a des systèmes très modernes, mais autrefois, on avait une machine à vapeur qui ressemble à... qui est celle-ci, pardon. Donc, on n'avait plus 259 pompes, on n'avait plus que 8 pompes, qui étaient des pompes très puissantes. On amenait par un canal d'eau l'eau de la rivière sous le bâtiment, et les pompes étaient actionnées par un système de balancier. Alors, je vous montre un peu les organes essentiels de cette machine. Il faut imaginer derrière une grosse chaufferie avec la cheminée qui crache de la vapeur. Et puis ici, vous avez un cylindre. Où à l'intérieur, on a un disque qui peut coulisser. Et on fait venir la vapeur chaude par ici et par là, de manière alternative. Et du coup, le cylindre était soulevé, puis rabaissé. Et ce cylindre entraînait un piston, ici, qui montait. On avait cette pièce mobile-là, qui entraînait tout un système d'engrenage pour faire marcher des pompes. Voilà. Je suis désolée, c'est pas animé, je fais des gestes avec les bras, j'espère que vous arrivez à suivre. Et cette machine a donné vraiment pleine satisfaction, puisqu'elle parvenait à remonter d'une seule traite toute l'eau dont on avait besoin. Vous voyez la machine au bord de la Seine, là dans le fond de ma photo, qui est une photo maison. Et puis vous apercevez un gros tuyau. Alors c'est un tuyau, on va dire, patrimonial, il n'y a plus rien dedans aujourd'hui. Mais il faut s'imaginer qu'au 19e, il y avait quand même aussi plusieurs canalisations qui remontaient l'eau jusqu'à Louveciennes, parce que oui, on continue de faire monter l'eau jusqu'à l'aqueduc de Louveciennes pour la faire redescendre dans les réservoirs. Et cette eau ne servait plus seulement au jardin de Versailles, de Marly, mais depuis le règne de Louis XV, elle sert également à alimenter les fontaines des villes où la population va chercher son eau bonne à boire. Alors là, on a des petites vues où on voit les ruines de la machine de Louis XIV, à côté la machine à vapeur, on est sur le bord de la Seine. Là, on a une belle vue des ruines, enfin de ce qui reste de la machine, et de la machine provisoire, qui va en fait fonctionner tout le temps, en même temps que la machine à vapeur. Et cette machine à vapeur, bien qu'elle fasse parfaitement son travail, elle a quand même un inconvénient. C'est qu'il faut l'alimenter en charbon, et que le charbon, ça coûte cher. Donc c'est un système qui n'est pas tout à fait économique. Si bien qu'on va inventer une troisième et dernière machine de Marly, et on va revenir, comme à l'époque de Louis XIV, à la force hydraulique. On va se servir du fleuve pour alimenter la région en eau de rivière. Et le projet, il a été soutenu par Napoléon III. Et à partir de 1850-58, pour vraiment le fonctionnement de la machine, on construit un nouveau bâtiment en face de la machine à vapeur. Cette fois, on débarrasse le fleuve des résidus de la machine de Louis XIV et on construit un bâtiment tout neuf, que vous voyez ici sur un tableau de Sisley, qui abritera la nouvelle machine. Alors, c'est un bâtiment qui repose sur des piles, on les aperçoit avec leur espèce de petit chapeau ici, et sous les arcades passe l'eau de la Seine qui va entraîner des roues. Une autre vue du bâtiment, avec les eaux un peu plus basses. Et, attendez, c'est pas très commode, à l'intérieur du bâtiment, voilà ce qu'on avait. Donc là, on a une photo du début du XXe siècle, une carte postale. On avait 6 grandes roues en bois qui actionnaient des pompes. Et vous voyez un peu leur gigantisme au vu de la taille des ouvriers qu'on peut voir à côté. Donc, un bâtiment fermé. Et je vous montre un schéma des roues. Alors, les roues, on n'aperçoit pas tellement, hein, mais vous voyez, on distingue un peu un cercle, vous voyez ? Voilà, des roues qui trempent dans l'eau, qui est représentée en bleu, et on retrouve, là, on est assez familiarisé maintenant au vocabulaire, ces roues ont chacune une petite manivelle qui va entraîner une bielle, et puis des pompes qui vont aspirer et refouler l'eau de la Seine. Alors, les pompes, cette fois, ne plongent pas directement dans la Seine. Il y a une sorte de petit conduit, hein, un peu comme une paille qui va aspirer l'eau. Et chaque roue a 2 pompes de part et d'autre. On a au total 24 pompes. Et toutes ces pompes fonctionnent tous un petit peu en décalé. Et ça, c'est une très, très bonne idée. Ça va permettre à l'eau de remonter de manière fluide le long de la canalisation. Parce que sous Louis XIV, on avait des coups de bélier. Les pompes marchaient toutes en 2 temps, donc on avait un gros volume d'eau qui arrivait tout d'un coup dans la conduite, et parfois ça les faisait éclater. Mais ça, on n'avait pas compris encore au XVIIe que les coups de bélier pouvaient être néfastes aux conduites. Alors cette eau emprunte le même chemin qu'à l'époque de Louis XIV, on remonte la colline, et cette fois, on ne monte plus sur l'aqueduc. L'aqueduc, à partir de Napoléon III, du milieu du XIXe siècle, ne va plus être utilisé. Voilà. Alors, à partir des années 1875, on tombe sur un problème, c'est que l'eau de Seine que l'on distribue à la population pour qu'elle la boive, on s'aperçoit qu'elle est polluée. On le sait grâce aux poissons qui vivent dans les réservoirs, les fameux réservoirs de Louis XIV qui sont encore en service. Et là, on se dit qu'on va plus pouvoir servir cette eau dont on estime que sur 5 gobelets puisés à la Seine, eh bien, un est intégralement constitué des goûts de Paris. Voilà. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et donc, à la fin du 19e, on va commencer à exploiter la nappe phréatique. Et ça tombe bien, sous la machine de Marly, il y a une énorme nappe phréatique. Donc, on va creuser des puits. J'ai des coupes géologiques là qui montent des puits. Alors, on creuse un puits tout simplement à côté du bâtiment de la machine à vapeur. En plus, c'est un puits artésien. C'est génial. C'est un puits qui atteint une nappe phréatique qui est sous pression. Donc, l'eau, elle remonte toute seule. Et puis, sinon, on va creuser d'autres puits à Croissy. Donc c'est de l'autre côté de l'eau. Et les puits vont d'abord être exploités avec des machines à vapeur qui vont remonter l'eau. Et par des canalisations, on va faire passer l'eau au-dessus de la Seine, en logeant les canalisations sous un pont, tout simplement. Et on va amener cette eau jusqu'à la machine de Napoléon III, notre dernière machine, qui va servir désormais de relais. Les roues vont actionner des pompes qu'on a modifiées pour réexpédier l'eau vers les réservoirs de Marly. Et cette machine donc, fonctionne jusque dans les années 1960. Et dans les années 63 exactement, l'exploitant de l'eau, c'est encore un service public, eh bien, change son système de pompage et toutes les pompes vont être électrifiées. Et le raccordement au réseau électrique va faire qu'on n'aura plus besoin de la machine de Dufrayer. Si bien que cette machine devenue hors d'usage, eh bien, va être détruite en 1969. Et là, vous avez donc une photo de la destruction. Il reste aujourd'hui plus grand-chose de cette machine. Mais si on fait, si on fait un bilan du patrimoine de la machine de Marly, aujourd'hui, que reste-t-il ? Il reste le bâtiment Charles X, donc là que vous voyez sur la photo, qui abrite les pompes électriques super puissantes. Il reste également sur la rivière un petit appentis. Alors souvent les gens disent, mais qu'est-ce que c'est ? C'est ça la machine ? En fait, c'est un petit appentis qui servait à ranger des éléments de barrage liés à la machine de Napoléon III, donc qui est le seul survivant. Les canalisations aujourd'hui sont très très modernes, elles ne sont plus visibles, elles sont toutes enterrées naturellement, parce qu'il y a un enjeu de sûreté qui est lié à l'eau. L'aqueduc de Louvciennes existe encore, mais n'est plus utilisé. Les réservoirs de Marly sont encore utilisés. Et voilà, donc il reste aujourd'hui des éléments tangibles de l'histoire de la machine de Marly. Aujourd'hui, que fait-on pour boire l'eau ? Enfin, pour aujourd'hui, il y a quand même des héritiers de la machine de Marly. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, c'est la Lyonnaise des Eaux, qui occupe les bâtiments anciens de Louis XIV au bord de la rivière. Donc, on capte toujours l'eau des puits de Croissy. Alors, vous voyez sur l'image ici, on a un tout petit bâtiment qui doit faire à peu près 4 mètres de côté. C'est le chapeau d'un puits. Donc, il y a des pompes électriques à l'intérieur. Cette eau est toujours amenée vers le pavillon Charles X. Et puis derrière ce pavillon, vous avez toute cette espèce de ces artères gigantesques, tout ce réseau de canalisation qui monte vers Louvciennes. Et à Louvciennes, vers l'aqueduc, et l'eau qui, une fois qu'elle a longé l'aqueduc, eh bien, est stockée à l'état brut dans le réservoir de Louis XIV, les réservoirs de Marly. Elle est stockée brute, à ciel ouvert, donc ce n'est pas encore de l'eau qui sert à la boisson. Et de l'autre côté de ces réservoirs de Marly, je vous avais montré les réservoirs de Louvciennes de l'autre côté de la route. Et ces réservoirs de Louvciennes ont été très modifiés. Ce sont des réservoirs, ce sont des réservoirs en béton aujourd'hui. Et ils accueillent une usine de traitement d'eau potable. C'est l'usine de Louvciennes qui est construite sur ces réservoirs anciens. Et une fois que l'eau est traitée, désoxygénée, désozonée, tout ça, elle circule bien sûr dans des canalisations fermées et elle est distribuée à une vingtaine de communes des environs. Voilà, donc là je finis avec la photo là, qui est sur le site de la Lyonnaise des Eaux, qui a l'intérêt de montrer un petit fragment du réseau dont nous avons hérité de Louis XIV. L'emplacement de la machine de Marly, et puis les réservoirs d'eau brute à ciel ouvert au niveau de Marly. Et puis de l'autre côté de la Seine, le champ de captage d'eau de la nappe phréatique, avec tous les puits dont on aperçoit le sommet quand on passe, même en voiture, vous pouvez voir, à Croissy-sur-Seine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et j'espère avoir été le plus clair possible pour tous ces détails qui sont parfois techniques. Je suis à votre disposition pour toute question. Oui ? Oui. Enfin, je suis pas sûre. Ou il appartient peut-être au syndicat qui gère les eaux. En fait, c'est une collectivité qui gère les eaux de la région, le syndicat mixte pour la gestion des eaux de Versailles-Saint-Cloud, qui doit être maintenant allié avec le SMAROF, avec la section de Versailles. Voilà. Et donc, je pense que c'est la collectivité qui est propriétaire du terrain. Mais il y a une délégation de services publics qui est faite auprès de la Lyonnaise. Alors, à Louvciennes, ça s'appelle la Sevesque. Maintenant, ça s'appelle la CEOP. Ça a encore changé de nom. Donc, le terrain appartient, on va dire, à la collectivité. Mais il y a un exploitant qui peut l'utiliser pour y installer ses infrastructures. Oui ?
J'ai toujours entendu dire, parce que c'est vrai, que cette machine faisait beaucoup de bruit.
Alors, la machine de Louis XIV, on peut imaginer que ça devait craquer, ça devait grincer. La machine de Dufrayer, certaines personnes qui l'ont connue me disaient qu'il y avait toujours en effet un bourdonnement, que ça faisait du bruit. Et il y a aussi une autre nuisance qu'il y avait, c'est que ça sentait mauvais. Ça sentait la vase et la gadoue, parce que, du moins dans les années 60, parce que les roues, pendant les basses eaux, eh bien, remuaient de la vase. Et, voilà. Donc je ne sais pas si c'était un bruit terrifiant. Enfin, vous parlez de l'époque de Louis XIV ou...
Oui,
mais on... Ah oui. On peut penser qu'avec le nombre de trains qu'il devait y avoir, même des pompes qui n'étaient pas cachées dans des bâtiments, ça devait en effet crisser, grincer, craquer, peut-être pour aussi les structures en bois. On n'a pas les enregistrements de l'époque, mais on peut se l'imaginer. J'ai donc été claire. Oui. Non, elle pouvait arrêter en période de basse eau. Tout ce qui était gel, cru et basse eau entraînait l'interruption de la machine. Et alors en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, comme c'est l'eau de la nappe qu'on traite, qui est utilisée, j'imagine que la nappe est haute en ce moment. Oui. Non. Alors d'autant plus que la Seine est vraiment beaucoup plus haute que la nappe. Mais au début du XXe siècle, on s'est aperçu que l'eau de la Seine pouvait basculer dans la nappe par un phénomène, je dirais, d'aspiration. Enfin, je suis pas vraiment scientifique dans le fond, donc excusez-moi. Donc, pour essayer de contrôler l'eau qui arrivait dans la nappe, ce qui a été fait, c'est qu'on a pompé l'eau de la Seine et elle était dépolluée. Et cette eau, pas potable, mais déjà assez pure, était répandue dans les champs de captage de Croissy-sur-Seine. Et du coup, elle s'infiltrait par le sol. Et c'est une eau relativement propre qui réalimentait la nappe phréatique. Donc on s'est aperçu que le fleuve communiait avec la nappe. C'est en prélevant l'eau de la nappe. On dit, tiens, on a les mêmes cochonneries, si je puis dire, que ce que la Seine charrie. Donc pomper la Seine permet en fait de protéger la nappe en quelque sorte.
À l'époque de Louis XIV, il buvait l'eau de la Seine ou...
Oui, et l'eau de la machine de Marly était considérée comme une eau bonne à boire. Elle rassurait la population parce que c'est une eau courante, contrairement aux eaux stagnantes des citernes ou des étangs que certaines populations étaient un peu contraintes de consommer. Est-ce que Louis XIV buvait de la Seine? Je ne sais pas. Alors, à Marly, le pavillon des bains et les pavillons des offices n'étaient pas alimentés par la machine de Marly, mais par les autres sources qu'on avait captées avant la construction de la machine de Marly. Mais l'eau de la machine était considérée comme une eau bonne à boire. Bon. Je vous remercie. Veulent creuser un peu la question? Oui.
Je vous demande de l'exposition qui a été faite au musée il y a 10 ans.
Ah oui, d'accord.
Les maîtres de l'eau.
Oui.
Je pense qu'il est en vente à la librairie des Princes.
Ou chez vous.
Ou chez nous.